L'endroit était sombre et poussiéreux, à demi perdu dans l'entrelacs des anciennes ruelles proches des quais, exhalant l'odeur de choses inconnues à portée d'au-delà des mers, au sein d'étranges volutes de brouillard chassées par les vents d'ouest. De petits carreaux en losange, obscurcis par la fumée et le gel, montraient à peine les livres entassés, pareils à des arbres tourmentés, pourrissant du sol au plafond. Congère d'une connaissance antique tombant en lambeaux, offerte pour un prix dérisoire. J'entrai sous le charme, et d'une pile ensevelie sous des toiles d'araignée, pris le volume le plus proche et le parcourus rapidement, tremblant en lisant des mots ignorés qui semblaient contenir un monstrueux secret oublié de tous. Puis, cherchant du regard quelques vieux vendeurs à l'esprit cauteleux, je ne trouvai personne, mais entendis un rire. Je mis le livre sous ma veste, m'efforçant de le dissimuler en un pareil endroit. Puis me hâtai à travers les anciennes rues du port, tournant souvent la tête et allant d'un pas nerveux. Des fenêtres maussades et furtives, encastrées dans de vieilles briques branlantes, me lorgnaient bizarrement comme je passais devant elles, et, songeant à ce qu'elles abritaient, je désirais jusqu'à la nausée apercevoir un coin de ciel pur et bleu, rédempteur. Personne ne m'avait vu prendre l'objet, pourtant un rire pâle résonnait dans ma tête en proie au vertige. Je soupçonnais alors quel monde de la nuit et du mal était aux aguets dans le volume que j'avais convoité. La route devint étrange, ainsi que les murs démentiels. Et loin derrière moi résonnèrent des pas invisibles. J'ignore quel détour dans la désolation de ces allées portuaires ignorées me ramenèrent chez moi, mais sur mon porche je tremblais, livide dans ma hâte de rentrer et de verrouiller la lourde porte. Je possédais le livre indiquant la voie secrète pour traverser le vide et les écrans suspendus dans l'espace, tenant en échec les mondes non dimensionnels et confinant les éons révolus dans leur propre domaine. Enfin, la clé de ces vagues visions était mienne, les flèches dans le couchant et les bois crépusculaires qui méditent obscurément dans des abîmes au-delà des précisions de cette terre, rôdant comme autant de souvenirs de l'infinitude. La clé était mienne, mais tandis que j'étais assis là, marmonnant, au grenier, la fenêtre vibra presque imperceptiblement. Ce jour était revenu où, étant enfant, j'aperçus, une seule fois, ce creux empli de vieux chênes gris où la brume montant du sol enveloppait et étouffait les formes avortées que la folie avait souillées. Je le voyais à nouveau, une herbe abondante et sauvage se pressant autour d'un autel dont les signes gravés invoquaient celui qui n'a pas de nom. Vers lui montaient, voici des éons, un millier de fumées depuis de hautes tours impures. Je vis le corps étendu sur cette pierre moite et sus que les choses qui festoyaient là n'étaient pas humaines. Je sus que ce monde étrange et gris n'était pas le mien, mais Yugot, par-delà les gouffres stellaires. Ensuite, le corps lança vers moi un cri d'agonie, et trop tard, je sus que c'était moi. Le démon dit qu'il me ramènerait chez moi, vers le pays pâle et ombreux dont je me souvenais vaguement comme d'un endroit élevé aux escaliers et terrasses bordés de balustrades de marbre coiffant les vents du ciel, tandis que des lieux plus bas, près d'une mer aux eaux tranquilles, s'étendait un labyrinthe allant de dôme en dôme, de tour en tour. Une fois encore, m'affirma-t-il, je me retrouverais enchaîné à ces collines anciennes et entendrais le grondement des flots lointains. Tout cela, il me le promit, et par les portes du couchant, il m'emporta rapidement, traversant les lacs de flammes qui nous léchaient, passant devant les trônes rouges et or des dieux qui n'ont pas de nom et poussent des cris de peur devant un destin menaçant. Puis un gouffre noir avec des bruits de vagues dans la nuit. Voilà où se trouvait ta demeure, se moqua-t-il, quand tu voyais encore. Nous trouvâmes la lampe à l'intérieur de ces falaises creuses, aux signes sculptés qu'aucun prêtre de Thèbes ne déchiffra jamais, et les effrayants hiéroglyphes de ces cavernes étaient un avertissement pour toute créature vivante de l'espèce humaine. Il n'y avait plus rien, à part un bol d'airain contenant les traces d'une nuit étrange, ornée de dessins et de motifs obscurs, de symboles suggérant vaguement des péchés inconnus. Les peurs de 40 siècles ne signifiaient rien pour nous comme nous emportions notre maigre butin, et lorsque nous l'examinâmes dans notre tente obscure, nous frottâmes une allumette pour essayer l'huile antique. Elle flamboya, grand Dieu, mais les formes gigantesques que nous entrevîmes dans cet éclair insensé brûlèrent à jamais nos âmes de crainte. La grande colline se dressait près de la vieille ville, falaise surplombant la fin de la grande rue. Immense, verte et boisée, elle regardait sombrement vers les clochers au coude de la grande route. 200 ans plus tôt, on avait chuchoté sur ce qui se passait sur cette pente évitée par l'homme. Des récits de daims étrangement mutilés, ou d'oiseaux, ou encore d'enfants égarés dont les parents n'espéraient plus le retour. Un jour, le postier ne trouva plus le village à cet endroit, et l'on ne revit jamais plus ses habitants ni leurs maisons. Les gens vinrent d'Aylesbury et constatèrent. Pourtant, ils dirent tous au postier qu'il était fou, de toute évidence celui-ci affirmant avoir aperçu les yeux gloutons de la grande colline et ses mâchoires béantes. À 10 miles d'Arkham, j'avais rencontré la piste qui suit la falaise au-dessus de Boynton Beach, et espérais avoir atteint au coucher du soleil la crête d'où l'on contemplait Innsmouth dans la vallée. Au loin, sur la mer, un voilier s'en allait, blanc, comme des années de vents anciens et cruels pouvaient l'avoir blanchi, mais porteur d'un sinistre présage au-delà des mots. Aussi j'évitais d'agiter la main ou de le saluer. Des voiliers sortant d'Innsmouth, échos de vieilles renommées, de temps morts depuis longtemps. À présent, une nuit trop rapide s'approche, mais j'ai atteint la hauteur d'où si souvent j'ai examiné la ville lointaine. Les flèches et les toits sont là, mais regardez, les ténèbres s'abattent sur les ruelles sombres, aussi obscure que la tombe. C'était la ville que j'avais connue auparavant, la ville ancienne et lépreuse, où des foules métissées chantent en l'honneur d'étranges dieux et battent des gongs impies dans des cryptes sous des ruelles abjectes près du rivage. Les maisons putréfiées aux yeux de poisson me lorgnaient de côté comme elles se penchaient, ivre et à demi animé. Traversant le monceau d'ordures, je franchis la porte de la sombre cour intérieure où l'homme devait se trouver. Les murs noirs se refermèrent sur moi, et je maudis le ciel à voix haute pour être jamais venu en pareille tanière, lorsque soudain une vingtaine de fenêtres explosèrent en une lumière sauvage et grouillèrent de lugubres danseurs, folles et muettes orgies de la mort les entraînant, car aucun corps n'avait de main ni de tête. Ils m'emmenèrent vers des quartiers lépreux, aux murs de briques décharnées, boursouflés par un mal visqueux entassé dans les bâtisses, où une foule épaisse et obscène, au visage tordu, adressait des messages à d'étranges dieux et démons. Un million de feux flamboyaient dans les rues, et des toits en terrasse, quelques oiseaux furtifs et souillés cherchaient à s'envoler vers le ciel béant, tandis que des tambours cachés battaient en un rythme constant. Je savais que ces feux annonçaient des choses monstrueuses, et que ces oiseaux de l'espace avaient été ailleurs. Les autres riaient, puis se turent. Soudain muet, en entrevoyant ce que l'un des oiseaux tenait dans son bec maudit. Le fermier Seth Atwood avait plus de 80 ans lorsqu'il essaya de sonder ce puits près de sa porte, avec seulement Ebb pour l'aider à percer et à creuser. Nous rions, espérant qu'il retrouverait bientôt la raison. Mais à la place, le jeune Ebb devint fou lui aussi, à tel point qu'on le transporta à l'asile du comté. Seth ferma la bouche du puits avec des briques aussi tenaces que de la glu. Puis il entailla une artère de son bras gauche noueux. Après l'enterrement, nous prîmes aussitôt la direction de ce puits et arrachâmes les briques. Mais nous vîmes seulement une rangée d'échelons en fer disparaissant dans un trou obscur, plus profond que nous ne saurions le dire. Aussi nous remîmes les briques en place, car nous avions trouvé le trou trop profond pour qu'une sonde pût en toucher le fond. Ils me dirent de ne pas emprunter le sentier de Brix Hill, qui avait été jadis la grande route menant à Zoar, car Goody Watkins, pendu en 1974, avait laissé après lui une monstrueuse conséquence. Pourtant, je désobéis et embrassai du regard le cottage recouvert de vignes vierges, près de la grande pente rocailleuse. Ormes et cordes de chanvre ne me vinrent pas à l'esprit et, curieusement, la maison ne semblait pas délabrée. M'arrêtant un moment pour contempler le jour déclinant, j'entendis de faibles hurlements comme provenant d'une chambre à l'étage lorsque, par les vitres chargées de lierre, un rayon de soleil entra et surprit celui qui hurlait ainsi. Je l'entrevis et m'enfuis terrifié, loin de cet endroit et de la créature qui possédait quatre pattes et un visage humain. Le coucher du soleil hivernal, flamboyant au-delà des flèches et des cheminées à demi détachées de cette morne sphère, ouvre de grandes portes sur quelque année oubliée, aux splendeurs anciennes et aux désirs divins. Des miracles à venir brûlent au sein de ces feux ardents, chargés d'aventures et entachés de peurs. Une allée de sphinx mène vers des lyres lointaines, au travers de murailles et de tours frissonnantes. C'est le pays où fleurit le sens de la beauté, où chaque souvenir inexpliqué a sa source, où la grande rivière du temps entame sa course descendant le grand vide au fil des heures éclairées par les étoiles. Les rêves nous rapprochent de cette contrée, mais un savoir antique répète inlassablement que jamais le pas de l'homme n'a souillé ses rues. Il est une heure crépusculaire à la teinte particulière, en automne le plus souvent, où le vent venu des étoiles s'engouffre dans les rues au faîte de la colline, déserte. Elle montre cependant la lumière précoce dans les chambres confortables. Les feuilles mortes dansent d'étranges et fantastiques figures, et la fumée des cheminées tourbillonne avec une grâce inconnue selon des géométries de l'espace du dehors, tandis que Fomalhaut épie à travers les brumes du sud. C'est l'heure où les poètes frappés par la lune savent que les fungi poussent sur Yugot, et quels parfums et nuances de fleurs prennent possession des continents de Niton, comme n'en connaît aucun de nos pauvres jardins terrestres. Néanmoins, pour chaque rêve que ces vents nous apportent, une douzaine des nôtres ils emportent. Au plus profond de mon rêve, le grand oiseau chuchotait étrangement, me parlant du cône noir au sein des déserts polaires. Celui-ci se dresse sur la banquise, solitaire et lugubre, battu et défiguré par des éons de tempêtes démentielles. Ici ne court aucune forme de vie terrestre, seules de pâles aurores et des soleils maladifs brillent sur ce roc creusé de trous, dont les origines primitives sont devinées obscurément par les grands anciens. Si les hommes l'apercevaient, ils se demanderaient seulement quel étrange caprice de la nature ils contemplent. Pourtant, l'oiseau m'a parlé de parties plus vastes qui, sous le linceul de glace épaisse d'une lieue, se cachent et méditent. Dieu vienne en aide aux rêveurs dont les folles visions montrent ses yeux morts enchâssés dans les profondeurs de cristal. La maison était vieille, avec des ailes enchevêtrées et fantasques, dont personne ne connaissait au juste l'étendue. Dans une petite chambre au dos de celle-ci, il y avait une étrange fenêtre scellée d'une pierre antique. Là, dans une enfance tourmentée par les rêves, solitaire, j'avais coutume de venir lorsque la nuit régnait, vague et sombre, écartant les toiles d'araignée avec une étrange absence de peur, en proie à un émerveillement toujours croissant. Plus tard, j'y amenais des maçons afin de découvrir quelles perspectives mes lointains ancêtres avaient fui. Comme ils perçaient la pierre, un souffle d'air impétueux s'engouffra dans la pièce, venant du vide inconnu béant au-delà. Ils prirent la fuite, mais je regardais et trouvais déployés tous les mondes sauvages que m'avaient révélés mes rêves. Il y avait de grandes steppes et des plateaux rocheux s'étendant presque illimités dans la nuit étoilée, avec d'étranges feux de camp répandant une faible lumière sur des bêtes aux clochettes tintantes en des troupeaux velus. Loin, vers le sud, la plaine descendait, large et basse, vers une ligne sombre en zigzag de murailles gisant comme un énorme piton surgi de l'aube des temps que des éons infinis auraient gelé et pétrifié. Je frissonnais curieusement dans l'air froid et raréfié et me demandais où je me trouvais et comment j'étais venu lorsqu'une forme enveloppée dans un manteau près d'un feu de camp se leva et s'approcha, m'appelant par mon nom, regardant le visage mort sous le capuchon, je cessais d'espérer, car j'avais compris. Au-delà de cette muraille dont l'antique maçonnerie de ses tours recouvertes de mousse atteignait presque le ciel, il y aurait des jardins en terrasse, aux fleurs luxuriantes, et des vols d'oiseaux, des papillons et des abeilles. Il y aurait des allées et des ponts enjambant gracieusement de chauds étangs couverts de lotus, reflétant la corniche du temple, et des cerisiers aux rameaux et aux feuillages délicats, se découpant sur un ciel rose, traversé de hérons. Tout serait là, car mes rêves anciens n'avaient-ils pas franchi cette porte vers ce dédale aux lanternes de pierre où des ruisseaux nonchalants dévidaient leurs cours sinueux, guidés par de vertes vignes pendant de leurs branches. Je me hâtais, mais lorsque le mur se dressa, immense et sévère, je découvris qu'il n'y avait plus de porte. Année après année, j'entendais ce tintement faible et lointain de cloches aux accents profonds apportés par le vent noir de minuit. Carillon d'un clocher que je ne pouvais situer, mais étrange comme s'il venait d'au-delà un grand vide. Je cherchais un indice dans mes rêves et souvenirs et songeais à tous les carillons portés par mes visions. Ceux de la calme Innsmouth, où les blanches mouettes planent autour d'un clocher antique qu'autrefois je connus. Toujours perplexe, j'entendais tomber ces notes lointaines jusqu'à cette nuit de mars, où la pluie morne et froide m'éclaboussant me fit franchir à nouveau les portes du souvenir vers les tours anciennes où tintaient les battants d'aimants. Ils tintaient, mais provenaient des courants sans soleil qui se déversent à travers des vallées profondes sur le lit de la mer morte. De quelle crypte elles sortent en rampant, je ne saurais le dire, mais chaque nuit je vois ces créatures noires, cornues et décharnées, aux ailes membraneuses et aux queues portant la barbe bifide de l'enfer. Elles arrivent par légions, portées par la houle du vent du nord, avec d'obscènes griffes qui titillent et irritent. Elles me saisissent et m'emportent vers de monstrueux voyages, en des mondes grisâtres, au cœur du puits des cauchemars. Au-dessus des pics déchiquetés de toc, elles passent, ignorant les cris que je pousse en vain, et descendent dans les puits inférieurs jusqu'à ce lac obscène où les chogottes boursouflées se vautrent dans un sommeil douteux. Mais quoi, si seulement elles émettaient un son ou avaient un visage là où se trouvent les visages.
Et finalement, de l'intérieur de l'Égypte vint l'étrange être noir. Devant lui se courbaient les fellahs, silencieux et maigres, énigmatiquement fiers, et enveloppés d'étoffes rouges comme les flammes du couchant. Les foules se pressaient alentour, fanatisées et soumises, mais en partant, ils ne pouvaient répéter ce qu'ils avaient entendu. Pourtant, parmi les nations se répandait la nouvelle terrifiante que des bêtes fauves le suivaient et lui léchaient les mains. Bientôt, au fond de la mer, commença une naissance pernicieuse, des pays oubliés aux flèches d'or recouvertes d'algues. Le sol fut crevassé et des aurores démentielles s'abattirent en tournoyant sur les citadelles tremblantes des hommes. Alors, écrasant ce qu'il avait eu l'occasion de modeler, le chaos idiot balaya la poussière de la terre. Vers le vide sans pensée, le démon m'emporta, au-delà des amas brillants de l'espace dimensionnel, jusqu'à ce que s'étendit devant moi ni le temps ni la matière, mais seulement le chaos sans forme et sans lieu. Ici, dans les ténèbres, le puissant maître de tout marmonnait à propos de choses qu'il avait rêvées mais ne comprenait pas. Auprès de lui, des formes vagues de chauves-souris s'agitaient et voletaient en des tourbillons ineptes d'où ruisselaient des rayons de lumière. Elles dansaient follement, suivant la plainte ténue d'une flûte craquelée que tenait une patte monstrueuse d'où sortaient les vagues sans but dont les hasards se confondant donnaient à chaque fragile cosmos sa loi éternelle. « Je suis son messager, » dit le démon, tandis qu'avec mépris il frappait son maître à la tête. J'ignore si cela a même existé. Ce monde perdu flottant obscurément sur le fleuve du temps. Et pourtant je le vois souvent au sein d'un brouillard violet et luisant faiblement au fond de quelques vagues rêves. Il y a d'étranges tours et des rivières aux curieuses sinuosités, des labyrinthes de merveilles et des caveaux emplis de lumière et des cieux aux entrelacs flamboyants, pareils à celui qui frissonne d'un vif désir juste avant une nuit d'hiver. De grands marais conduisent à un rivage désert, couvert de joncs, où des oiseaux immenses tournoient, tandis que, sur une colline battue par le vent, se dresse un village ancien, au blanc clocher, dont les carillons du soir résonnent encore à mes oreilles. Et n'ose pas demander quand et pourquoi j'y fus, où y serai. Quelque part dans mon rêve, il y a un endroit maudit où de grands édifices déserts se pressent le long d'un étroit canal, profond et sombre, exhalant l'odeur de choses effrayantes portées par les courants huileux. Des allées aux murs anciens se rejoignant presque au-dessus des têtes se dévident vers des rues que l'on peut ou non connaître. Et une faible clarté lunaire répand une lueur spectrale sur de longues rangées de fenêtres sombres et mortes. Aucun bruit de pas, et ce bruit doux est celui de l'eau huileuse tandis qu'elle glisse sous des ponts de pierre et le long des quais dans son chenal profond vers quelque vague océan. Aucun être vivant pour dire quand ce fleuve emportera de ce monde d'argile cette région perdue dans mon rêve.
Prenez garde au carillon fêlé de Saint-Aud!
Entendis-je crier comme je m'élançais vers ces ruelles folles dont le labyrinthe obscur et mal défini se dévide au sud de la rivière où rêvent des siècles anciens. C'était une silhouette furtive, courbée et en haillons. En un éclair, elle tituba et disparut de ma vue. Aussi, je m'enfonçai dans la nuit, encore plus avant, vers l'endroit où se dressaient d'autres lignes de toit déchiquetées et malveillantes. Aucun guide n'indiquait ce qui rôdait là-bas. Pourtant, j'entendis un autre vieillard hurler.
« Prenez garde au carillon fêlé de Saint-Aude !»
Faiblissant, je m'arrêtai. Alors une troisième barbe grise coassa avec peur.
« Prenez garde au carillon fêlé de Saint-Aude !»
Épouvanté, je fuis jusqu'à ce que, soudain, cette flèche noire se dressa devant moi. John Watley vivait à environ un mile de la ville, sur les hauteurs où les collines commencent à se presser, compactes. À en juger par la façon dont il laissait sa ferme péricliter, nous n'avions jamais pensé que son esprit fût très rapide. Il passait son temps à étudier des livres étranges qu'il avait trouvés dans le grenier de sa demeure, jusqu'à ce que de drôles de rides marquent son visage, et tous les gens disaient ne pas aimer son regard. Lorsqu'il se mit à gémir la nuit, nous déclarâmes qu'il serait préférable de l'enfermer pour éviter tout mal. Aussi, trois hommes partirent d'Aylesbury, ville proche, pour le chercher. Ils revinrent seuls et terrifiés. Il l'avait trouvé parlant à deux formes tapies qui, à leur approche, s'étaient envolées déployant de grandes ailes noires. De l'aigue où des pics rocheux se dressent, mornes et nus, sous de froides étoiles occultées aux yeux humains, jaillit au crépuscule un unique ray de lumière dont les lointains rayons bleutés firent sangloter et prier des bergers. On dit, mais personne n'y a jamais été, qu'il sort d'un phare dans une tour de pierre où vit seul le dernier des grands anciens parlant au chaos dans le battement des tambours. « La chose, chuchote-t-on, porte un masque de soie jaune dont les replis étranges semblent dissimuler un visage qui n'est pas de cette terre, mais personne n'ose demander quel trait au juste cache le tissu. Beaucoup, dans la première jeunesse de l'homme, cherchèrent ce phare, mais ce qu'ils trouvèrent, personne ne l'a jamais su. » Je ne saurais dire pourquoi certaines choses pour moi expriment des merveilles inexplorées à venir, ou une fissure dans le mur de l'horizon donnant sur des mondes où seuls les dieux peuvent vivre. C'est une attente vague, inanimée, comme de pompes anciennes dont je me souviens à demi, ou d'aventures sauvages, immatérielles, chargées d'extase et libres comme un rêve diurne. Je la trouve dans les crépuscules et les flèches étranges de cités, dans des villages anciens, des bois ou des vallons emplis de brume, dans les vents du sud, la mer, les coteaux et les villes éclairées, les vieux jardins, les champs à demi perçus et les feux de la lune. Grâce à ces leurres, la vie vaut la peine d'être vécue, pourtant. Personne n'acquiert ou ne devine ce qu'ils laissent entrevoir en retour. Chaque année, dans l'éclat pensif de l'automne, les oiseaux s'envolent au-dessus d'un océan désert, appelant et caquetant dans la hâte joyeuse d'atteindre un pays que connaît leur mémoire profonde. De grands jardins en terrasse où s'épanouissent des fleurs éclatantes, des rangées de mangues succulentes au goût et des bosquets aux branches entrelacées formant des temples au-dessus de frais sentiers. Tout cela, leurs rêves vagues le leur montrent. Ils cherchent sur la mer les traces de leur ancien rivage et la grande cité aux tours blanches. Mais seules les eaux désertes s'étendent à l'horizon. Aussi, une nouvelle fois, ils font finalement demi-tour. Pourtant, au fond des abîmes où se pressent d'étranges polypes, les tours antiques se souviennent de leur chant à jamais perdu. Je n'ai jamais pu m'attacher aux choses nouvelles et crues, moi qui vis le jour dans une ville ancienne où, depuis ma fenêtre, les toits compacts descendaient vers un port étrange riche en visions. Des rues aux portails sculptés où les feux du couchant noyaient de vieilles fenêtres en éventail et de petits vitraux, et des clochers antiques surmontés de girouettes dorées. Telle fut la perspective qui modela mes rêves d'enfant. De tels trésors légués par des temps de prudent levain ne saurait être comparé à des apparitions frivoles qui volettent et s'agitent d'une manière confuse, rencontrant les murailles immuables de la terre et du ciel. Il tranche les liens de l'instant et me laisse libre de me dresser seul face à l'éternité. Ceci était déjà vieux quand Babylone était jeune. Personne ne savait depuis combien de temps cela dormait sous le tertre, où à la fin de notre quête nos pelles trouvèrent ces blocs de granit et les ramenèrent au jour. Il y avait d'énormes pavés et des fondations de murs, des dalles craquelées et des statues sculptées afin de montrer les créatures fantastiques d'un passé depuis longtemps révolu, si ancien que le monde des hommes ne s'en souvenait même plus. Alors nous vîmes à ces marches de pierre descendant par une porte obstruée de blocs de dolomite gravés vers quelque sombre havre de la nuit éternelle où se blottissent des signes très anciens et des secrets primitifs. Nous dégageâmes un chemin pour fuir en une folle retraite lorsque nous entendîmes monter ces pas lourds. Sa chair matérielle n'était jamais partie au loin, car chaque aube le trouvait à sa place habituelle. Mais chaque nuit, son esprit aimait à courir parmi les gouffres et les mondes distants du jour ordinaire. Il avait contemplé Yadith et gardé sa raison. Il était revenu, indemne, de la région de Gourik, lorsque, par une nuit tranquille, à travers l'espace courbe, fut lancé cet appel ténu venant des abîmes du dehors. Ce matin-là, à son réveil, il était devenu un vieil homme. Depuis lors, plus rien pour lui ne fut pareil. Les objets alentour flottaient, nébuleux et indistincts. Des fantômes trompeurs s'amusant sur quelques plans plus vastes. Ses parents et amis sont à présent une foule étrangère, et il cherche en vain à les rejoindre. Au-dessus des vieux toits et des flèches souillées du passé, le port entonne son chant au cœur de la nuit. Ma venue de ports étranges, plages lointaines et blanches, et fabuleux océans, rangés en un cœur bigarré où chacun est étranger à l'autre et inconnu de lui. Pourtant tous, sous l'effet d'une force obscure, venue des abîmes méditants au-delà de la course du zodiaque, se fondent en un mystérieux bourdonnement cosmique. À travers des rêves ombreux, ils font surgir d'autres formes ombreuses, des allusions et des perspectives, échos des vides du dehors et subtils indices de choses qu'eux-mêmes sont incapables de définir. Et toujours dans ce cœur presque indistinct, nous captons des notes qu'aucun navire terrestre n'a jamais émises. Le chemin descendait vers une sombre lande à demi boisée, où des rochers à la mousse grisâtre saillaient des moisissures, et de curieuses gouttes, inquiétantes et froides, sourdaient du sol, provenant des courants invisibles d'en bas. Il n'y avait pas de vent, pas le moindre bruit dans les broussailles enchevêtrées parmi les arbres aux formes inconnues, ni aucune perspective devant moi. Lorsque, soudain, juste sur mon chemin, je vis un tertre monstrueux. À mi-chemin vers le ciel, ses flancs escarpés se dressaient, recouverts d'une herbe de rue soulignant un escalier en ruine. Celui-ci escaladait la hauteur inspirant l'effroi, et ses marches de lave étaient trop grandes pour un pied humain. Je poussai un cri, et sus quelle étoile et quelle année primitive m'avaient aspiré de la sphère des hommes aux rêves éphémères. Je vis cela dans cet endroit caché et silencieux où l'ancien bois occulte à demi la prairie. Cela brillait à travers les splendeurs du couchant, mince au premier regard mais avec un visage s'animant lentement. La nuit vint, et ce fanal solitaire, teinté d'ambre, blessa ma vue comme jamais encore il ne l'avait fait. L'étoile du soir m'est grandie un millier de fois, encore plus obsédante dans ses fourrés et cette solitude. Elle traça d'étranges dessins dans l'air frémissant, demi-souvenirs qui avaient toujours empli mon regard. Tours immenses et jardins, mers inconnues et cieux emplis d'une vie mystérieuse. Je ne saurais dire où. Mais alors je compris qu'à travers le dôme cosmique, ces rayons m'appelaient de ma demeure lointaine et oubliée. Il y a dans certaines choses anciennes la trace d'une mystérieuse essence. Plus qu'une forme ou un poids, un éther ténu, indéterminé, pourtant lié à toutes les lois du temps et de l'espace. Un signe faible et voilé de continuité que les yeux matériels ne peuvent qu'imparfaitement décrire. De dimensions enchâssées, abritant les années enfouies et hors d'atteinte, sauf pour des clés cachées. Cela me remue surtout lorsque les rayons obliques du couchant brillent sur de vieilles fermes nichées à flanc de colline et peignent des couleurs de la vie les formes qui s'attardent encore depuis des siècles, pourtant moins un rêve que tout ce que nous connaissons. Dans cette lumière étrange, je ne me sens aucunement distant de cette masse immuable dont les flancs sont les âges.